Bon matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'ajuster le micro. Parce qu'apparemment, j'ai une plus grosse voix que Richard. C'est pas trop fort? All right. Mon père avait une bonne voix aussi. Ma mère était continuellement en train de dire de parler moins fort. En retour à la maison, après qu'il ait prêché. Puis, il n'y a pas de micro. Mais c'est comme ça, hein? Les pionniers, dans ce temps-là, l'électronique ne marchait pas fort. Le Seigneur leur avait donné un bon cornet. Comme ça, ouais, c'est ça. Je suis content avec vous autres ce matin. Puis, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Ce matin, je veux toucher avec vous un des plus beaux thèmes de l'univers. C'est le thème de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est le plus beau thème de l'univers. Elle est la seule source de salut, d'espoir et de vie pour un monde déchu. Puis elle est la plus grande source de motivation pour la marche chrétienne, pour la nouvelle vie que le Seigneur a placée devant nous. Alors, avec ça, je vais vous inviter à tourner dans l'épître de Tite, Paul à Tite, au chapitre 2, versets 11 et 14. Tite, chapitre 2, 11 à 14. Quatre versets. Puis on va voir ensemble quatre points. La grâce divine manifestée. La grâce divine enseigne, équipe et transforme. La grâce divine garantit une espérance bienheureuse. Et la grâce divine nous donne une vie, une nouvelle identité et appartenance. On va prier, ensuite on va faire la lecture. Tite 2, 11 à 14. Seigneur, on veut dire un grand merci, te rendre grâce, Seigneur, pour ce temps qu'on peut prendre en toute liberté, en famille. On veut te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous amène ici ensemble. C'est sur toi, Seigneur, que nous plaçons nos regards. C'est sur toi, Seigneur, et vers toi, que nous chantons nos louanges parce que tu nous aimes, parce que tu nous as restaurés, que tu nous as rachetés. Ce matin, Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole que tu nous donnes, que tu nous as laissée, avec laquelle tu te révèles. Et ce matin, Seigneur, nous prions que par ton esprit, tu puisses toucher nos cœurs, tu puisses nous aider, nous illuminer pour pouvoir saisir, Seigneur, la beauté de ta parole, la richesse de ta parole qui fortifie nos vies. Alors, Seigneur, conduis-nous, conduis-moi pour que je ne sois pas une entrave, Seigneur, à ton message, mais un outil dans tes mains pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Tite 2, 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Donc, on va regarder les quatre points, la grâce divine manifestée, la grâce divine qui enseigne, équipe et transforme, la grâce divine garantit une espérance bienheureuse, puis la grâce divine qui nous donne une nouvelle identité et appartenance. Verset 11. La grâce divine manifestée, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Premièrement, pour saisir la grâce, on doit toucher à la dépravité de l'homme. Le verset nous dit « source de salut pour tous les hommes », soulignant que tous les hommes sont dans un grand besoin de grâce, un grand besoin de salut, un grand besoin de restauration. Cette phrase souligne un problème qui nous a tous atteints et que beaucoup d'hommes choisissent d'ignorer. Ce problème est que l'homme a péché contre Dieu, son Créateur, et que ce péché contre Dieu constitue une infraction qui mérite la mort éternelle, selon la justice divine. Le péché a occasionné une rupture, une séparation entre l'homme et Dieu, il nous a tous plongés dans le monde des ténèbres. Il nous a plongés dans le péché, dans la malédiction. Il nous a placés devant ce grand jour de jugement où Dieu appliquera son courroux et sa vive colère, sa juste vive colère va un jour tomber sur les pécheurs. En ce jour, le ciel entier, avec tout ce qui l'habite, le loueront et l'adoreront pour l'application de ce juste jugement. De un, parce que ce jugement est juste, et de Dieu, parce que ce jugement mettra fin à la puissance des ténèbres et à toute rébellion qui s'élève contre lui. Et voilà où entre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, qui est une source de salut pour tous les hommes, et qui est en quelque sorte une bouée de sauvetage que Dieu tend aux hommes qui sont en péril. La grâce de Dieu a commencé à se manifester dès au jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme ont péché. Au lieu d'appliquer sa justice sur l'homme et la femme, Dieu a mis à mort un animal. Et Dieu a versé le sang. Et Dieu a couvert l'homme et la femme avec un désir de réconcilier, avec un plan de vouloir réconcilier l'homme avec lui-même. God Question dit quelque chose comme ça pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur divine imméritée. C'est Dieu qui choisit de nous bénir au lieu de nous maudire comme nous le méritons pour nos péchés. Un nommé Matthew Sanders dit ceci, « La grâce de Dieu est le rayonnement de son caractère par lequel il accorde librement sa bonté et sa générosité à ses créatures qui pourtant méritent sa condamnation. La grâce de Dieu est aussi un don qui est entièrement gratuit, qui ne peut se mériter ni se gagner par aucune façon. La personne par qui et à travers qui cette source de grâce jaillit est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 1 Pierre 1:18 à 20 nous dit ceci, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Avant même la fondation du monde, Dieu avait planifié un sauveur. Un sauveur par qui il pourrait nous accorder sa grâce. Et c'est ce qu'il a manifesté dès le jardin en couvrant Adam et Ève. Et c'est ce qu'il a continué de manifester avec les sacrifices et le sang qui coulait, qui se reproduisait continuellement dans l'Ancien Testament. Lorsque Marie donna naissance à son premier fils à Bethléem, Luc, dans son évangile au chapitre 2, nous dit ceci. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur Jésus leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Les anges sont apparus dans le ciel pour annoncer à les pauvres bergers qui étaient les plus démunis de la société, ceux qui ont l'estimé le moins, pour leur dire, un sauveur vous est né. Un sauveur vous est né. Et les anges ont dit, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La NIV en anglais dit, on earth peace to those on whom his favor rests, on whom sa grâce demeure. On pourrait dire dans nos propres mots en disant, paix et réconciliation sur la terre parmi les hommes qui recevront sa grâce. Et les anges ont loué le Seigneur. Les anges sont apparus dans le ciel, des milliers d'anges, une armée d'anges qui a loué Dieu pour l'œuvre qu'il venait accomplir pour nous les hommes. 2 Corinthiens 8:9 nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et jusqu'à quel point le Fils de Dieu, le Créateur du monde, s'est-il abaissé et appauvri? Il s'est abaissé jusqu'à s'offrir lui-même, pour prendre sur lui contre sa personne la vive et pleine et juste colère de Dieu qui était réservée pour nous, les pécheurs. C'est ce que Christ est venu accomplir pour nous. Bien qu'il fût innocent de tout péché, qu'il soit le seul homme qui ait obéi à tous les commandements de Dieu en marchant en pleine communion avec lui, il s'est rendu à la croix. Et sans dire un mot, par amour pour vous et moi, malfaiteur, il a pris notre place. Ne pensons pas que la souffrance que Christ a souffert pour nos péchés s'est limitée aux douleurs de la crucifixion. Plusieurs autres hommes ont souffert le martyre de la crucifixion. Mais Jésus a souffert sur cette croix le rejet de la colère de son Père, ou le rejet et la colère de son Père qui le frappa de son courroux pendant ces 3 heures de ténèbres où notre péché a été mis sur lui. Pour que la grâce de Dieu soit une source de salut pour nous les hommes, rebelles et pécheurs, Christ a dû satisfaire la justice de Dieu pour nous. C'est le cadeau de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hébreux 2:9 nous dit, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il a souffert la mort pour vous et moi. C'est-à-dire, par la grâce de Dieu, Dieu a pourvu par le sacrifice de son Fils le paiement qui libère le pécheur de la mort éternelle et de la condamnation. Cette grâce, ce cadeau de pardon, ne peut se mériter ni se gagner. Il ne se reçoit que par la foi. Personne ne peut vous donner cette grâce. Aucun sacrement peut vous accorder cette grâce. Cette grâce nous vient et se saisit simplement et uniquement par la foi. Lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur, lorsqu'on reconnaît que la justice de Dieu va devoir être appliquée sur nos vies, mais que Dieu, dans son grand amour, envoie son Fils pour prendre cette justice, cette colère, afin que vous soyez libérés, quand votre cœur reconnaît cette réalité et se tourne vers Jésus par la foi pour dire « Seigneur, sauve-moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin de ta grâce. » À ce moment-là, la grâce de Dieu devient source de salut pour vous. Éphésiens dit dans 2, 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Vous êtes-vous tourné vers Jésus par la foi pour recevoir son don de grâce? Avez-vous fait cette transaction avec Dieu? La parole nous dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. L'œuvre de Christ à la croix peut couvrir tout péché, tout pécheur. Personne n'aura jamais trop péché que Jésus ne peut pardonner. Personne. En même temps, personne n'aura jamais assez peu péché pour ne pas mériter la condamnation éternelle. Vous êtes-vous tourné avec un cœur sincère pour recevoir le cadeau de Noël, qui est le salut de vos âmes, qui vous est offert par le cadeau de la grâce qui se trouve en Jésus? Dans un cantique qu'on chante, qui est très populaire, qui a été composé par John Newton, « Grâce infinie », les premiers versets disent ceci, « Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru, depuis ce jour. De tous les dangers, sa grâce m'a secouru. dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Notre deuxième point, la grâce divine enseigne, équipe et transforme, au verset 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce divine nous enseigne à marcher dans une nouvelle vie qui est digne du Seigneur Jésus et de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. La parole nous révèle en Colossiens que nous avons été créés par lui et que nous avons été créés pour lui. Donc, nous avons été créés et notre raison d'être est de vivre pour lui, de trouver notre bien-être en lui. Notre Dieu, Sauveur, Seigneur, Créateur de l'univers. Bien sûr, le péché est venu briser notre raison d'être. Il est venu briser notre bien-être pour que nous puissions nous retrouver perdus et dans les ténèbres, avec des cœurs infectés par le péché, pensant que la vie consiste à vivre pour soi-même. Bien voilà, la grâce de Dieu qui apporte le salut ne fait pas juste nous délivrer de la mort éternelle. Elle nous enseigne à vivre une nouvelle vie qui honore Dieu. Elle nous enseigne à dire non à l'impiété ou aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Le dictionnaire nous dit que l'impiété est caractérisée par une vie qui n'a aucune révérence envers Dieu. Et puis les convoitises mondaines sont des passions ou des désirs de l'être humain naturel qui sont contre Dieu. Et c'est ces passions et convoitises qui corrompent et détruisent notre monde. Donc, la grâce de Dieu exerce dans le cœur régénéré un désir de vouloir marcher avec le Seigneur, et cette grâce retient le pécheur du péché afin de pouvoir glorifier Dieu avec sa vie. Thomas Brooke, un puritain, écrit ceci: la grâce qui offre le salut rend un homme aussi disposé à abandonner ses convoitises qu'à un esclave dans un navire est disposé à quitter sa galère, ou un prisonnier sa cellule, ou un mendiant ses guenilles. Quelqu'un a dit: bien que le péché soit une occasion pour la grâce ne doit jamais être une occasion pour le péché. L'expression « elle nous enseigne », c'est-à-dire « cette grâce nous enseigne », nous indique que cette transformation ne se produit pas instantanément lorsque nous nous convertissons au Seigneur ou lorsque nous naissons de nouveau. Ça serait tellement le fun, au moment où on accepte le Seigneur, qu'on ait fini de se battre avec le péché. Ça serait tellement plaisant. Mais cette expression, elle nous enseigne, démontre que ce travail est un travail de processus, d'apprentissage et de croissance. Cette transformation se fait d'étape en étape, en marchant avec le Seigneur Jésus. Cette grâce ou cette influence divine sur nos cœurs va se révéler par l'exposition de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, avec l'assistance du Saint-Esprit de l'Église pour nous faire découvrir cette nouvelle vie, la volonté de Dieu, les passions ou les rêves que Dieu a pour chacun de nous afin que nous puissions le glorifier. L'Église et la parole de Dieu sont des moyens de grâce par lesquels Dieu nous bénit et nous influence par sa grâce, par sa bonté. La grâce de Dieu va aussi produire en vous un désir de faire sa volonté et même le pouvoir de pouvoir accomplir sa volonté à fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur Jésus. En Philippiens 2, 12 à 13, l'apôtre Paul dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais encore plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, lorsqu'on est de nouveau, Dieu place un nouveau désir dans nos cœurs, celui de vouloir l'honorer, de vouloir marcher avec lui, et Dieu va nous accorder sa grâce, c'est-à-dire son pouvoir, de pouvoir aussi le servir avec des dons, des capacités qui vont nous venir de lui. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, à l'âge de 20 ans, le Seigneur m'a montré que j'étais sur un croisé de chemin. Et bien que j'étais convaincu toute ma vie que l'Évangile était vrai, que Jésus-Christ était vraiment le sauveur du monde, Paul voulait marcher dans les plaisirs du monde avec un cœur impie, un cœur pécheur. À l'âge de 20 ans, quand j'étais au camp Jolubé après avoir revenu, juste pour un court temps, donner un coup de main à papa, le Seigneur m'a convaincu que si je continuais dans ma direction, j'avançais dans un chemin de non-retour. Puis que c'était urgent que je me tourne vers lui pour le salut de mon âme. Cet été-là, j'ai plié le genou devant le Seigneur, puis j'ai pleuré. Confessant mon péché, puis lui demandant pardon, plaçant ma foi dans le Seigneur Jésus. Les deux, trois premières semaines que j'ai passées à travailler au camp, je sortais le soir avec mes chums pour aller brasser, boire de la bière, courir les filles, blasphémer le nom du Seigneur. Après que j'ai demandé au Seigneur de sauver mon âme, mon cœur voulait plus que tout être avec les enfants de Dieu, autour d'un feu de camp, à louer, puis à adorer, puis à chanter le Seigneur. Une œuvre s'est passée que Paul Jolin n'était pas capable de faire. Et c'est cette œuvre de grâce que Dieu accomplit dans un cœur qui se tourne vers lui. Et de tout mon cœur, je disais, Seigneur, je veux te servir. Je ne veux plus vivre juste pour mes niaiseries puis pour mes petites passions. À ce moment, Dieu a placé ce désir dans mon cœur et me fait réaliser que j'étais devenu un missionnaire. Que ma vie trouverait sa direction en lui et sa raison d'être en lui. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu, dans sa grâce aussi, et dans sa sagesse et bonté, va parfois permettre des épreuves douloureuses dans nos vies pour que nous apprenions à dépendre sur sa grâce et sa bonté envers nous. On a parfois la pensée que La grâce de Dieu va nous donner un beau red carpet. Pas de neige. OK? Pas de boss. Tout va être très facile. Mais Dieu, dans sa grâce, permet que nous ayons des épreuves difficiles pour que nous nous attachions à sa grâce, pour que nous nous abreuvions de lui, que nous restions accrochés à lui. Et c'est ce que Paul nous partage. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 12, verset 9, que le Seigneur, pour qu'il ne s'égorne, oui, merci, qu'il ne s'enorgueille pas, c'est pas le mot, en tout cas, c'est ça, c'est exactement ça, à cause des grandes révélations qu'il avait reçues de Dieu en tant qu'apôtre, Dieu lui a donné une écharde, c'est-à-dire Dieu lui a accordé une écharde qui était des anges de Satan qui venaient le darder. Puis personne ne comprend vraiment ou ne sait vraiment, mais c'était quelque chose qui était une épreuve qui était très douloureuse pour l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a prié, la parole nous dit, trois fois pour que Dieu le délivre de cette écharde. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Dieu répondit à l'apôtre Paul et dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'apôtre Paul a répondu, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul avait compris que ces épreuves étaient une bénédiction qui venait de la part de Dieu, pour qu'il puisse continuer à s'abreuver de sa grâce et ne pas dépendre sur lui-même dans son service pour le Seigneur. Est-ce que nous reconnaissons cette grâce que Dieu apporte dans nos vies? Parfois, la grâce de Dieu envers nous aussi s'applique par une main de discipline. C'est ce qu'Hébreux 12 nous dit. Hébreux 12, 5 à 11. L'auteur rappelle les Hébreux, les disciples à qui il écrivait et qui souffraient quand même des épreuves, des circonstances difficiles. Il leur rappelle ces paroles. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils ou des filles que Dieu vous traite. Car quel fils ou quel est le fils ou la fille qu'un père ne châtie pas? Mais je dis fille parce que Laurette, sa Bible, a dit gars et fille. Puis je veux pas qu'elle se sente mis à part. Supporter le châtiment, c'est comme des fils et des filles que Dieu vous traite. Car quel est le fils ou la fille qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont peur, vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous n'êtes pas des vrais. Vous n'êtes pas des vrais disciples. Vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, ou du mieux qu'ils le pouvaient. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, frères et sœurs, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord être un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen. David remercie le Seigneur puis loue le Seigneur Il loue le Seigneur pour la discipline que Dieu a apportée dans sa vie. Puis si vous lisez l'histoire de David, il a mangé quelques bonnes raclées de la part du Seigneur. Mais c'est ce qu'il a gardé, attaché à son Seigneur. Frères et sœurs, si vous êtes en train d'expérimenter la discipline du Seigneur, ne vous rebellez pas contre lui. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et Dieu exerce sa discipline parce qu'il veut que vous vous approchiez de lui. Parce qu'il veut que vous vous débarrassiez de choses dans votre vie qui le déshonorent et qui amènent destruction et corruption dans votre vie. La parole de Dieu nous dit dans Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Les fruits de la grâce de Dieu peuvent se voir chez les disciples du Seigneur, sur les disciples de Christ. Et lorsque ces fruits apparaissent, vous devenez des trophées de la grâce de Dieu. Dieu dit, regarde, c'est mon œuvre, c'est ma grâce, c'est mes trophées. Dieu veut que nous soyons des trophées de sa grâce, des gens qui brillent comme des flambeaux dans le monde, des gens qui dégagent le parfum de Christ. La responsabilité qui nous revient dans cette transformation est d'être engagés à plein gaz à ce que Dieu veut accomplir et lui abandonner notre vie en s'appuyant sur sa grâce, c'est-à-dire sur sa puissance, sur sa main, pour faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. C'est aussi important de souligner que l'humilité est un terrain fertile pour que la grâce puisse s'enraciner et porter des fruits. Vous connaissez le passage qui est répété à quelques reprises dans la parole. Dieu résiste, mais il fait grâce aux hommes. Cette grâce est immesurable pour nous. Elle est plus profonde que les mers, plus vaste que les océans, plus haute que l'azur des cieux, et nous laisse sans excuse pour ne pas porter des fruits et grandir, croître à la gloire de Dieu. Vous avez de l'amertume contre certains. Humiliez-vous devant Dieu. Confessez-lui votre péché et demandez à Dieu qu'il vous accorde sa grâce pour pouvoir pardonner complètement. Hébreux 12, 15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » De pouvoir pardonner des injustices, c'est pas humain, c'est divin. Et Dieu peut vous accorder cette grâce, frères et sœurs. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Vous luttez avec certains péchés, des dépendances. N'achetez pas le White Tower. Comment est-ce qu'on dit là? La serviette. Tournez-vous vers Dieu. Humiliez-vous. Demandez à Dieu sa grâce pour vous délivrer en lui faisant confiance. Et Dieu vous accordera sa puissance. Dieu vous accordera victoire. Romains 6, 14 dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous sa grâce. » Frère et sœur, je ne suis pas en train de dire que les enfants de Dieu doivent être parfaits, mais les enfants de Dieu doivent croître vers la perfection. Vous avez certains défis, des inquiétudes, des anxiétés. Approchez-vous du trône de la grâce, où il vous donnera généreusement de sa paix. Romains 8, 32 nous dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, qui va contribuer à sa gloire, frères et sœurs? » Troisième point, la grâce divine garantit une espérance bienheureuse. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors que le monde ne sait où il se dirige, le peuple de Dieu vit dans la bienheureuse espérance du retour de Christ. Et c'est bien une belle et bien une bienheureuse espérance. Parce qu'à sa venue, notre salut qu'il a accompli pour nous par sa mort et sa résurrection verra sa consommation. Pierre écrit à ces chrétiens, à ces étrangers qui sont, ces chrétiens qui sont devenus étrangers dans ce monde. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ayez une entière espérance. Parce que cette œuvre de salut, c'est lui qui l'a accomplie à la croix. Et elle trouvera sa consommation. Elle sera complétée en vous et en moi lorsque Jésus-Christ reviendra. Donc, on peut anticiper. Et c'est même une grande motivation pour nous, dans notre service, à demeurer ferme, à persévérer, à endurer dans les temps qui sont difficiles. Parce que Jésus revient, comme il est venu la première fois qu'il a donné sa vie pour nous, il revient pour chercher his prize, or his bride, son épouse, qu'il s'est acquis à la croix. Pierre nous dit encore, dans cette première épître au chapitre 1, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. C'est ce qu'on a vu. On est venu se rappeler ce matin, en prenant ce repas. Christ a donné sa vie pour nous. Il est mort et ressuscité, il nous a rachetés par son sang. Et nous attendons, nous prenons ce repos jusqu'à ce qu'il revienne. Nous attendons ce jour où nous serons réunis, pris dans sa possession et nous serons couronnés de sa grâce. Nous recevrons un corps glorieux Nous apparaîtrons dans sa présence sans aucun défaut, aucune accusation, dans la perfection totale. C'est l'œuvre de sa grâce envers nous. Le Seigneur a comparé son retour et sa réunion avec son Église à une noce. Et que fait le fiancé durant le temps où son fiancé est parti lui préparer une place? Elle se prépare en vue de son mariage. Elle garde et protège tout son amour et son affection pour lui. Puis elle va tout faire pour se présenter devant lui. Bien coiffée, bien belle et avec les plus beaux habits. Apocalypse 19 nous dit ceci. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. De servir le Seigneur de tout cœur et de persévérer démontre notre amour envers lui. Et la parole nous dit que nous allons être vêtus. Jésus va nous regarder, vêtus de fin lin par les œuvres qu'il nous aura accordées de produire par sa grâce. Dernier point, la grâce divine nous donne une nouvelle identité et appartenance. La grâce divine nous donne une nouvelle identité et appartenance. Verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est Spurgeon qui, dans ses écrits, a fait remarquer quelque chose que je n'avais pas vu, puis qui vaut la peine vraiment d'être souligné. Il dit ceci, remarquez, dans ce texte, que vous n'êtes pas racheté par le Fils de Dieu fait homme. Vous n'êtes pas racheté par la souffrance qu'il a endurée sur la croix ou même par sa mort. Ce texte nous dit, vous êtes racheté parce qu'il s'est donné lui-même pour vous. Il s'est donné lui-même pour vous. Qu'il est venu dans ce monde, lorsqu'il est allé à la croix, qu'il a pris notre mort sur lui, il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi. Et c'est pour cela que nous sommes rachetés. Et ça, frères et sœurs, devrait vraiment toucher nos cœurs de savoir que nous avons été choisis même avant la fondation du monde. Et que lorsque Christ subissait la colère de Dieu, ses pensées et ses regards étaient sur vous qui avez dit oui au Seigneur Jésus. C'est quelque chose qui a changé la vie de Paul. Paul peut dire « l'amour de Christ me presse ». C'était cet amour qui lui donnait cette persévérance et cette endurance à travers sa vie, à travers la course qu'il avait devant lui. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pour moi. Le verset dit, il s'est donné lui-même pour vous afin. Et le afin nous souligne la raison pour laquelle Christ s'est donné pour vous et moi. Christ ne s'est pas donné pour vous et moi simplement pour nous délivrer de l'enfer ou de la punition éternelle. Mais il s'est donné et a payé notre dette afin de nous racheter de toute iniquité, afin de nous délivrer de la puissance et de l'esclavage du péché. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous pouvons aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, dire non au péché et aux convoitises de la chair. Parce que notre salut, parce que l'Évangile nous accorde la puissance de dire non au péché. Quand le monde et Satan viennent avec leurs friandises, leurs tentations, nous dire que nous leur appartenons, nous pouvons nous tourner vers notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ ressuscité et vers l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour dire non, non. Je suis maintenant enfant de Dieu. Le verset nous dit, il nous souligne qu'il a donné, qu'il s'est donné lui-même pour se faire un peuple qui lui appartienne. À travers sa grâce et le sacrifice du Seigneur Jésus, nous avons reçu une nouvelle identité et nous avons une nouvelle appartenance. Nous appartenons plus à ce monde. Satan n'a plus le pouvoir sur nous. Nous appartenons à Dieu. Il nous a rachetés par son propre sang. Je termine avec ces quelques versets. Pierre nous dit, encore dans le chapitre 2, 1 Pierre, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant être le peuple de Dieu. » Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et l'apôtre Jean dit dans son premier évangile, ou sa première épître, excusez, au chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Frères et sœurs, j'espère que vous êtes encouragés par la grâce, la riche grâce que le Seigneur Jésus, que le Dieu nous offre à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, on veut ce matin te louer, te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes, ce cadeau. Nous méritions, Seigneur, la perdition éternelle et nous sommes aujourd'hui héritiers du Père, co-héritiers de Christ. Cette richesse, Seigneur, nous dépasse. Mais Seigneur, on veut te dire merci. Puis en gardant nos yeux sur ton retour, ta seconde venue, là, Seigneur, où nous serons glorifiés avec toi, nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, t'honorer avec nos vies. Nous voulons que nos vies, Seigneur, soient en action de grâce, un acte d'adoration envers cette grande œuvre que tu as accomplie pour faire de nous tes enfants. Alors, Seigneur, fortifie-nous par ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, de marcher comme tes enfants. Accorde-nous d'être une église qui est vivante, qui représente ton corps dans ce monde, par ta grâce. Remplis-nous de ton esprit, nous t'en prions, par ta grâce. Remplis-nous de courage pour annoncer cette bonne nouvelle de salut qui se trouve en Jésus dans notre entourage et au milieu de notre famille. Nous t'en prions. Merci Seigneur d'entendre nos prières. Amen.